Volume présente, Anthologie criminelle, livre 4. Les femmes mènent l'enquête. Lue par Françoise Cheritel. Mademoiselle Sherlock, de Paul Zahori. Chapitre 1er. À quoi rêvent les jeunes filles? Les maisons, comme les individus, ont leur physionomie. À Paris, on s'aperçoit mieux qu'ailleurs de cette vie muette et formidable de la pierre de taille qui reproduit en vibrant, du rez-de-chaussée au sixième, toute la gamme des sentiments humains. Il est des immeubles crispés, trapus, déployant une robuste musculature de moellon et qui semblent agressifs, comme s'ils se préparaient pour d'étranges batailles. D'autres ont le sourire, mais quémandeurs. D'autres sont larmoyants, mais hypocrites. Il y a des entresols cascadeurs, des premiers puritains, des cinquièmes pleins de fantaisies ingénues, des troisièmes passionnés et voluptueux, ne songeant qu'à jouir du soleil, pendant que le sévère rez-de-chaussée fait des affaires. Certains logis sont timides, d'autres sont effrontés. Tous ont leur âme particulière, qui influe plus qu'on ne croit sur celle du locataire, insoupçonneux de ce psychisme obscur. L'appartement habité par le fameux inventeur Ploubert au coin du boulevard des Italiens et de la rue Voisenon se distingue en ceci qu'il est franchement antithétique et paradoxal. Du côté du boulevard, il participe au tumulte, à l'orgie du mouvement et des lumières. Il se mêle en quelque sorte à la foule des passants, dont la cohue dégage une merveilleuse électricité. Et du côté court, c'est le calme, la quiétude provinciale, la possibilité exquise du farniente prolongé à loisir. Pour savourer comme il convient cette violente antithèse, Ploubert n'a qu'à passer d'une pièce dans l'autre. À l'époque où commencent les événements que nous allons raconter, c'est-à-dire dans les premiers jours de mars 1908, l'antithèse se continuait d'une façon particulièrement pittoresque et déconcertante dans la partie de l'appartement occupée par la chambre de Fabienne Ploubert, la fille cadette de l'inventeur. Une tradition qui a survécu à tous les soubresauts de la mode veut que la chambre d'une jeune fille soit une façon de sanctuaire aux meubles laqués et aux rideaux clairs, propice à la rêverie, retraite sûre et inviolable à l'heure des premiers émois. Or, le sanctuaire de Fabienne ressemblait plutôt au laboratoire d'un savant maniaque et distrait. Tous les sièges, y compris la chaise longue, étaient encombrés de brochures et de journaux. Ce fouillis se continuait sur le tapis, dans un amas de paperasses dépliées, froissées, piétinées, car il fallait bien marcher dessus pour aller et venir dans la pièce. Sur le petit bureau de citronnier s'étalait un pêle-mêle impressionnant de livres énormes. Des bottins, des dictionnaires, des manuels de médecine et de chimie, dont la pile était couronnée par divers indicateurs de chemin de fer. Sur le lit, en un beau désordre, voisinaient des jupes, des imperméables, des fourrures, une solide canne de montagne, un appareil photographique, des guêtres de cuir, une jumelle marine et trois ou quatre paquets ficelés dans des toiles d'emballage. Sur la toilette, un microscope trônait au milieu des brosses et des flacons. Sur la cheminée, devant la pendule, un amas de lettres décachetées. Sur la coiffeuse, enfin, un de ces revolvers si mignons, si minuscules, si damasquinés qu'on est tout surpris de ne pas les voir suspendus en breloque à une chaîne de montre. Faut-il vous faire remarquer que la pendule était arrêtée, mais que le revolver était chargé? N'allez pas croire que Fabienne appartenait à cette catégorie d'émancipés qui éprouve un goût spécial pour les sports masculins les plus violents. Avec ses beaux cheveux châtains, ses yeux noirs qui pétillaient d'intelligence et de malice, son menton menu, ses traits délicats encore affinés par l'atmosphère magique de Paris, qui donne de la grâce même aux plus laides, Fabienne n'avait rien de la décadente moderne. C'était une admirable et saine créature, poussée droit, sans tare d'aucune sorte et d'une angélique candeur, bien qu'elle se figurât tout savoir. Sans souci de l'heure tardive, minuit venait de sonner aux horloges environnantes, elle se livrait d'ailleurs dans le capharnaüm où régnait le prodigieux désordre que je viens de décrire, à une occupation sentimentale entre toutes. Elle jouait éperdument du violon. Tout à coup, elle s'arrêta net, au beau milieu d'une phrase nuancée à ravir.